Imaginaire, c'est le rendez-vous incontournable pour les amoureux et amoureuses de la pop culture. Un mardi sur deux à 21h, on parle littérature populaire, mais aussi jeux, ciné, séries, avec des chroniques, des interviews, sans oublier les invités et l'actualité. Imaginaire, c'est un mardi sur deux à 21h sur Radio G 101.5.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Imaginaire sur Radio G jusqu'à 22h. Il y a deux mois, notre association remettait le prix Heyerdahl à Jean-Claude Dugnac pour bons et loyaux services rendus aux littératures de l'imaginaire. Une heure avant la remise du prix, c'était Romal qui interviewait Jean-Claude sur sa carrière devant le public des Salons Kurnonski et nous allons écouter la première partie de cette rencontre dans l'émission. Ceci entrecoupé d'extraits de l'album Les Parfums Oubliés de Now, le groupe de rock de Jean-Claude. Mais avant, une petite nouveauté chroniquée par Karine, un polar sorti chez Argile.
Je vais vous présenter Et les gens qui ne sont rien de Christophe Nicolas, publié aux éditions Argile. Dans ce roman, Christophe Nicolas nous immerge au cœur d'une enquête qui paraît simple de prime abord. En effet, Emma Coulon semble avoir été victime de violences conjugales par son mari, Michael Coulon, qui est le principal employeur de la région. Ce qui complique l'affaire, et oui, comme c'est un homme important, il est protégé notamment par le procureur qui fait pression sur l'adjudant Gérardin venant d'arriver à la brigade de Génolac, un petit village des Cévennes. On va donc suivre cette enquête qui va révéler bien des secrets. Entre trahison, accident, violence, amitié, corruption, pression, je vous laisse bien évidemment découvrir tout l'envers de cette enquête à la lecture. Sachez juste que ce ne sera pas de tout repos pour l'adjudant Gérardin, qui va aussi combattre son propre passé. Le roman est construit de sorte à explorer plusieurs points de vue à deux époques différentes pour mieux appréhender les faits et en comprendre l'historique. Il donnera la parole à un personnage en particulier, Olivier Petit, dont le vécu l'a empêché de vivre et qui démontre toute cette violence que la société entretient d'une certaine façon. On comprend page après page les rouages de la justice pour protéger les plus puissants et tant pis, si cela impacte les moins aisés. On observe aussi que la bataille peut être interne avec des conflits de hiérarchie et un manque de moyens, surtout dans des petites communes et villages tels que Génolac. L'auteur nous offre donc un thriller social qui dénonce les failles des procédures judiciaires et la société en elle-même, d'où le titre d'ailleurs, Et les gens qui ne sont rien, que l'on doit à, bizarrement, une personnalité politique en 2017. Il illustre malheureusement qu'il y a bien deux camps, les puissants et les moins aisés. Un roman percutant, réaliste et engagé qu'il faut absolument lire pour ne pas oublier qu'il faut changer les choses. Christophe Nicolas est auteur et musicien. En 2021, il publie Traqué, publié par la même maison d'édition, Argile, et qui a obtenu le prix de la Gâchette d'Or 2022. Je ne peux que vous inviter à découvrir cet auteur et suivre ses actualités. Et je vous laisse avec le groupe de reggae metal Skindred et leur chanson Nobody sur Radio G.
My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we on and on. Oh, and no. Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba
and make the crowd jump up. Crowd get out, I splatter, and they rap up. Then up the rock, I met up on K-pop. Unity sound, killer groove, non-stop. And every this place, I saw this song will survive. Strength and power, I gotta keep them alone. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are unknown. Oh, we know. Swing dread, we in all your area. Bring the rock, cause you know we're superior. Yeah, you know, we are unknown. Oh, I'm gonna get so done, they shop it online. Nobody gets out alive. I'm gonna get so done, they shop it online. Nobody gets out alive. Come on, them a try flex, really show them the rock a pong power. Watch them at twist. Sting like a scorpion, buzz like an E. Full of sophisticated, I go drop what toy. This is what we want here. You got to know. If you think you're a star, come and have a go. My song, we come to take over. MC, you better look over your shoulder. Yeah, you know, we are alone. Oh, we know. Drag we in all your area. When you rock out, you know we're superior. Yeah, you know we earn it all.
Bonjour, merci d'avoir accepté l'invitation pour l'édition imaginaire de la 13e édition imaginaire déjà, et afin de recevoir le prix Ayerdal. Donc le 5e prix Ayerdal déjà aussi, c'est pareil, ça commence à faire. Alors ce prix, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il récompense l'ensemble d'une carrière. Alors ça fait un petit peu la fin d'une carrière, mais pas du tout. Et ça veut dire que c'est une belle carrière pour l'instant. Et ça récompense aussi quelqu'un qui a eu un engagement assez humain dans le milieu. Ça nous tient à cœur, donc on t'a choisi cette année. Alors, je pense qu'on peut dire que t'es un être multidimensionnel, parce que t'as plein de dimensions. La première, c'est pas forcément celle à laquelle on va penser, c'est que t'es un homme de science. Tu es docteur en mathématiques appliquées, tu as fait une belle carrière et une longue carrière chez Airbus à Toulouse, dans ta ville natale. T'es aussi un homme de musique, en particulier parolier de chansons. Je pense que t'as écrit... peut-être 300, mais peut-être même beaucoup plus de chansons, surtout avec ton ami Norbert William, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui, qui est le père de Sandy V, d'ailleurs.
Qui est le père de Sandy V, on va peut-être en parler, c'est un DJ assez connu dans le milieu, peut-être pas de tout le monde. Et t'es surtout, enfin, en tout cas pour nous, t'es surtout un homme de lettres. Alors on te connaît écrivain évidemment avec une dizaine de romans et puis des dizaines ou peut-être même des centaines de nouvelles publiées, surtout en science-fiction et en fantasy. Tes œuvres, certaines ont été récompensées par des prix. Alors il y avait en 1992, c'était repris le prix Renie Aîné. J'ai toujours du mal à dire Renie Aîné pour le roman Étoile morte. Oui. C'est un peu celui qui t'a fait connaître, en tout cas. Tu étais déjà un peu connu dans le milieu, mais là, c'était un moment assez important. Tu as eu le GPI, le Grand Prix de l'Imaginaire, et encore le prix Renie Aîné, mais pour les nouvelles en 98, pour Déchiffrer la trame, qui était une nouvelle, et on en reparlera, bien sûr. Et surtout le prix Tour Eiffel 99 et le prix Ozone 2000. Pour Étoile mourante, qui est la suite d'Étoile morte, ce roman qui a été écrit à quatre mains.
À deux mains, avec l'ami Ayerdal.
Avec Yael Ayerdal, justement, qui a donné le nom et on en reparlera évidemment aussi. Tu as été éditeur de nouvelles, de romans, ouais. Pour Obrage et le NSF, ouais. Et de nouvelles, c'était pour qui déjà ?
C'est pour Galaxy, entre autres.
Pour Galaxy, bon, bien sûr.
J'ai travaillé comme éditeur un peu à freelance pour un certain nombre de gens, c'est sûr. J'adore ce métier-là, c'est vraiment un truc passionnant.
Tu es passeur et mentor avec de nombreux télémacs, puisque tu as fait des ateliers d'écriture, conférences TED. Tu as été dans la marque aussi Clix pour aider les jeunes auteurs. C'est un forum qui aide les écritures où tu lançais plein de poutous à tout le monde. Tu as aussi lancé des jeunes plumes dans une anthologie qui s'appelait Destination Univers en 2012 avec Jeanne Debat. Donc c'était une démarche pour lancer quelques auteurs jeunes en mélangeant avec des auteurs un peu plus installés. Et puis surtout, tu es distillateur d'émotions, parce que tu nous transportes à dos d'animaux-villes à travers l'espace. On plonge avec toi jusqu'aux cavernes des nains qui sont managés par un troll qui te ressemble peut-être un petit peu. Et puis, on décrypte grâce à toi un tapis antique. Et enfin, on va dire que tu peux insuffler beaucoup, beaucoup de vie à tes personnages. Je pense que c'est ça qui te caractérise. Alors, une question...
Maintenant que tu as tout dit, je peux m'en aller. Quoi. C'est
vraiment impeccable. Il faut faire une belle présentation. Ouais. Le truc, c'est... Première chose, c'est finalement, comment est-ce que tu as commencé à écrire ?
En fait, ça a été une histoire tout à fait bizarre. D'abord, j'ai commencé, quand j'étais au lycée, j'ai commencé à faire des poèmes. Mais ce n'était pas les poèmes auxquels vous pouvez vous attendre, j'en faisais aussi. Mais à un moment donné, on a décidé de mettre en vers le programme de mathématiques de terminale. Et donc, les premiers poèmes que j'ai publiés étaient, par exemple, la résolution des équations du second degré en alexandrin. Et ça a été mon premier problème poème publié, je dirais, au niveau français, puisqu'il y a un prof qui a trouvé ça marrant, qui l'a proposé à l'INSERM, qui était le truc des enseignants, et le truc s'est retrouvé dans un bouquin. Voilà. Donc, vous voyez, la résolution des équations du second degré en alexandrin. Ne me demandez pas de la réciter, je peux vous le faire, mais c'est pas drôle. Et puis, en fait, j'ai fait des tas de chansons parce que j'avais mon groupe de rock à l'époque. Et un jour, donc, mon épouse et moi, on s'est retrouvés. Elle commençait son travail à Airbus en juillet, le 1er juillet. Elle était sous-traitante. Et moi, je commençais ma thèse à Airbus le 1er août. Donc, je l'amenais à Airbus d'un coup de voiture. Et puis, je revenais à la maison. Il était quoi, 8h30. Et je n'avais rien à faire de la journée, à part l'attendre. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas, j'ai pris une feuille de papier et j'ai écrit une nouvelle. Ça m'a pris pratiquement... tout le mois de juillet. Le mois d'août, j'en ai écrit une deuxième. Le mois de septembre, j'en ai écrit une troisième. Troisième que j'ai envoyée à la revue Fiction. Et Alain Dorémieux, qui était le directeur de la revue Fiction à l'époque, m'a répondu, mais en quelques semaines. Et le texte a été publié. Et à partir de là, je sais pas, j'ai eu le sentiment que bon, ok, ça marche, on peut le faire. Je ne peux pas dire que je ne suis pas quelqu'un qui doute. Je me dis, tu vas essayer. Mais à chaque fois, je me dis, tu vas essayer, puis maintenant, il va falloir que tu bosses vachement pour arriver à un niveau suffisant. Et donc, j'ai commencé ce truc-là, j'ai vraiment bossé, puis par exemple, ma cinquième nouvelle, qui se trouve dans l'anthologie du festival, là, qui est une nouvelle qui s'appelle « Détails de l'exposition », je l'ai expédiée à Joël Vintrebert pour l'anthologie Univers 84, je crois, et elle l'a acceptée, et quand j'ai reçu la lettre d'acceptation, j'avais déjà fait deux autres versions de la même nouvelle, que je considérais comme meilleur. Alors je lui ai envoyé une lettre d'engueulade en disant « Mais comment t'as pu accepter cette merde ? J'ai fait beaucoup mieux depuis. » Et du coup, elle en a lu 11 versions et elle en avait mais ras-le-bol à la fin. Elle m'a dit « Écoute, je pense qu'on va s'arrêter là parce que j'en ai vraiment plein le dos de ce texte. » Alors qu'elle avait accepté la première version du texte. Quoi. Mais j'étais comme ça. Alors après, je ne sais pas pourquoi je le fais. Ce qui est certain, c'est que j'adorais communiquer, j'adorais échanger, j'adorais partager mes histoires, partager mes chansons, partager mes poèmes, tout ce que je veux. Et cette notion de partage, tu la retrouves chez pratiquement n'importe quel écrivain. L'envie que ce qu'on a dans la tête soit transmis, d'abord soit matérialisé, et ensuite soit transmis. Et on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein. On n'écrit pas parce qu'on veut gagner de l'argent, ça c'est de la connerie, on arrête très vite. On n'écrit pas parce qu'on veut être riche et célèbre. On écrit parce qu'il n'est pas possible de laisser cette histoire en friche sans la faire passer, sans la transmettre, sans l'échanger et sans qu'elle puisse mener sa vie. Voilà. Donc j'ai écrit, mais je ne sais pas te dire pourquoi.
Alors d'ailleurs, tu as écrit une dizaine de romans, comme je disais, mais quelque part, tu es très connu pour les nouvelles, et tu en écris tellement. Est-ce que tu as un rapport particulier avec le texte court, Jus?
Oui, j'ai un rapport particulier avec le texte court. J'en ai lu toute ma vie, j'ai adoré ça. Quelques-uns des plus beaux livres ou textes de ma vie sont des recueils de nouvelles. Je veux dire, les recueils de nouvelles de Salinger, le Vermilion de Sands de Ballard, etc. Ce sont des objets parfaits. Et un jour, Gilles Dumais, qui est un remarquable éditeur, a dit... On ne peut pas écrire un roman parfait, mais on peut écrire une nouvelle parfaite. On peut écrire une nouvelle dont on ne peut pas déplacer le moindre mot. Et je me suis toujours dit, si un jour j'y arrive, ben, j'aurai le sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir pondu un œuf, quoi. Et les nouvelles, c'est aussi quelque chose... Il faut savoir que j'avais une vie professionnelle très active. Je passais beaucoup de temps au boulot, parce que j'avais un boulot absolument passionnant. J'ai une famille, je suis marié avec la même dame merveilleuse depuis 42 ans. J'ai deux enfants. Je faisais des textes de chansons. Écrire un roman, c'était me lancer dans un an et demi, deux ans, avec les mêmes personnages. Une nouvelle, en trois semaines, je pouvais la plier. Et donc, quelquefois, j'avais une idée, donc je me disais ça, ouais, ok, c'est rond, je la sens bien, je l'aperçois, je prenais des tas de notes, j'ai en général pris plus de notes pour une nouvelle que la longueur de la nouvelle elle-même, et là, je pouvais faire une nouvelle, voilà. Alors après, pourquoi ça marche, j'en sais rien, hein, je sais pas te dire. Alors, mais j'adore ça.
Au-delà de la question du temps, il y a un plaisir différent dans la nouvelle, hein, par rapport au roman, pour toi?
Oui, il y a un plaisir différent parce que la nouvelle, c'est la nouvelle, et quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment, qui est la novella, c'est-à-dire la très longue nouvelle ou le très court roman, c'est quelque chose débarrassé de toute sa graisse, débarrassé de tout ce qui peut être une afféterie, qui peut être secondaire, etc., etc. C'est un steak tartare, mais sans les frites, et avec juste la viande, juste le truc qui va bien. Et ça m'intéresse parce qu'à un moment donné, j'ai plus envie de me taper une scène pas vraiment utile, mais qui fait du volume. J'ai pas envie de ça. J'ai envie de quelque chose qui soit vraiment une idée concentrée, et puis au dernier moment, le truc qui te rebalance ça dans la figure, et tu as une deuxième idée qui se superpose, ça explose, et le tout en 15 pages. Ça donne des textes de chansons quelquefois admirables. Je ne sais pas si vous connaissez le texte de Déjeuner en paix, qui a été écrit par Philippe Gian pour Stéphane Escher. Un texte comme ça, moi je me dis, ok, j'arriverai jamais à ça. C'est tellement parfait, c'est tellement juste, c'est tellement ce qu'il faut faire, que j'étudie ça, quoi. Avec humilité, je me dis, bon, c'est ça qu'il faut faire. Et la nouvelle, c'est ce sentiment qu'on peut englober en quelques pages quelque chose qui va se développer dans la tête du lecteur et va devenir très grand. Et la marque d'une nouvelle réussie, c'est quand vous mettez plus de temps à la raconter qu'à la lire. Une bonne nouvelle, vous mettez très longtemps à la raconter parce que vous avez plein de choses à raconter, alors que quand vous la lisez, ben, y a juste les éléments qui vous permettent de construire dans votre tête un univers entier. Et ça, c'est merveilleux. En tant que lecteur, je peux te dire que ça reste des choses qui m'émerveillent.
Et ton style, souvent, moi je le trouve poétique et sensible. Alors ça n'empêche pas des moments de cruauté ou des...
Oui,
mais il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre du poétique. C'est quelque chose qui est naturel, c'est travaillé,
d'abord,
c'est constant en fait.
C'est mon travail de parolier et de poète, si je puis dire. Et puis c'est le fait aussi que quand j'ai étudié, parce que j'ai fait des études scientifiques, mais j'ai fait du latin et j'ai fait beaucoup d'études de français. Ça m'intéressait, donc je suivais tous les cours optionnels, le français, les trucs comme ça. Et que tu le veuilles ou non, la poésie est intrinsèque à la langue française, au moins jusqu'à une certaine époque. Et chez certains auteurs, tu étudies Baudelaire, par exemple. Baudelaire que tout le monde connaît, qui a fait chier tous les élèves à un moment donné, alors que c'est un type extraordinaire. Baudelaire est un type qui te prend un alexandrin et qui étudie dans un même poème toutes les façons de faire sonner un alexandrin, de le découper en tranches, de le faire percuter pour soutenir ce qu'il dit. Tu peux avoir un alexandrin coupé à ce qu'on appelle la césure lémistiche, c'est-à-dire 6 pieds puis 6 pieds, ou alors 3, 3, 3, 3, tu fais une espèce de valse. Tu peux faire du 2, 2, 2, 3, 3. Mais de temps en temps, il se permet de faire des choses qui sont du travail impair. Et à ce moment-là, ça sonne, mais parfaitement. Et ça te rentre dedans. Et ça, c'est quelque chose que j'ai étudié parce que ça me provoquait une émotion dont je me disais, si ça marche, j'aimerais restituer ça pour les autres. Ben, je vais vous faire une poésie, mais il y a un poème de Baudelaire qui est très connu qui dit « Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. » Donc premier vers, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. D'accord ? « Tu réclamais le soir, il descend, le voici. Une atmosphère obscure enveloppe la ville, pareil, portant aux uns la paix, 6, aux autres le souci. Pendant que des mortels, la multitude de villes, sous le fouet du plaisir, virgule, ce bourreau sans merci, s'en va chercher l'oubli dans des fêtes serviles. » Et là, il te balance le truc. « Ma douleur, 3, donne-moi la main, 5, viens par ici, 3. » Et là, toi, tu prends ça dans la gueule parce que d'un seul coup, tu changes le ton où il est en train de décrire une perspective générale et puis il s'adresse à toi et puis il dit « Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. » Et là, on est empoigné, on est pris. Pourquoi ? Par la magie de quelque chose qui fait 3, d'accord, qui sonne. Que tu le veuilles ou non, quand tu le prends dans la figure et que tu te rends compte que ça marche, qu'on arrive simplement par une rythmique, simplement par une façon de faire glisser les sons, de les faire s'entrechoquer, ou de les faire au contraire passer tout en fluidité comme un chant de flûte, quand tu t'aperçois qu'on peut faire ça, ben c'est parfait. Je veux dire, tu te dis j'ai envie de savoir faire ça. Et tu bosses jusqu'à savoir le faire. C'est un peu comme quand tu es musicien, tu entends le musicien dont tu te dis je veux jouer comme lui, et ben tu bosses. Et tu fais tes gammes et tu étudies et tu regardes le truc. Puis à un moment donné, tu t'aperçois que tu fais pas comme lui, mais tu fais comme tu voulais toi que ça soit.
D'ailleurs, tu viens de le dire, on l'a tous compris, la musique c'est très important dans ta vie, dans ton œuvre. Là, on vient de parler de rythme, mais aussi on le comprend parce que c'est une de tes passions. Comme on l'a dit tout à l'heure, t'es parolier, mais t'as aussi été musicien dans ta jeunesse. J'imagine que tu continues.
Je l'ai été, mais je suis un très mauvais musicien. Je suis un très mauvais musicien.
On a le droit de faire de la musique pour soi aussi. Et tes personnages aussi parfois sont musiciens.
Oui. Ils sont artistes tout au moins.
Ils sont des artistes. Choses comme ça. Ouais. C'est un rapport particulier dans ton écriture. Tout est lié à la musique ou pas ?
Tout n'est pas lié à la musique, mais tout est lié, je dirais de façon générale, au son. Je me rends compte que les textes qui m'intéressent, les textes des autres, sont ceux dans lesquels il y a une ambiance sonore, dans lesquels il y a des odeurs, dans lesquels il y a des goûts. Il y a tout ce qu'on appelle un sensorium, c'est-à-dire tous les éléments de sensorialité qui vous permettent de dire, je n'ai pas seulement la vue, mais j'ai du bruit. J'ai du bruit, j'ai des sons et j'ai quelque chose qui accompagne. J'ai Frodon et Sam qui marchent dans une forêt. Je veux entendre le frisli des feuilles. Si je n'ai pas ça, ben quelque part le bouquin n'est que, je sais pas, qu'une espèce de promenade en 2D. Et sa sensualité, elle me manque. Et quand je fais des ateliers d'écriture, c'est quelque chose auquel j'accorde beaucoup de temps et beaucoup d'importance, de dire faites sonner, mais aussi faites goûter, faites sentir, faites toucher. Donner ces éléments-là. D'accord ? Et c'est vrai que c'est, pour moi, la musique, c'est vraiment, enfin, c'est une part importante de mon activité. Et puis maintenant que je suis à la retraite, je peux passer du temps en studio. Et c'est pas grave si je me couche à 4 heures du matin. J'ai pas réunion à 9 heures, comme ça m'arrivait un petit peu trop dans ma vie professionnelle. Donc je peux dormir. Mais c'est aussi véritablement que tu amènes un texte à un compositeur où il t'amène une musique et à un moment donné tu entends quelque chose dans la musique qui n'est pas le rythme immédiat mais qui est ce que j'appellerais le rythme secondaire et tu joues avec ça. Et tu peux te dire j'écris le texte sur les cuivres, j'écris le texte sur la batterie basse, j'écris le texte sur les harmonies qui n'y sont pas, j'écris le texte dans les creux de la musique. Tu as plein de façons de faire. Et à un moment donné, tu dis, ok, comment le chanteur va le dire, comment il va arriver à faire. Et quelquefois, il y a des chanteurs qui me bluffent. Je travaille pour des... Il y a une fille que j'adore qui s'appelle Corinne Lesage qui fait des versions de nos chansons. Eh ben, quand elle le fait, ça sonne bien. Et là, je me dis, ok, j'ai réussi ce qu'elle fait parce qu'elle le fait très bien. Quoi. Voilà.
Et ces textes-là, tu les écris toujours sur de la musique ou des fois, tu écris avant?
Alors,
la musique
non. Tu peux écrire ce qu'on appelle en l'air, c'est-à-dire tu écris un texte tout seul, puis tu vas voir un compositeur et tu lui dis, est-ce que tu as envie de me faire une musique là-dessus ? C'est assez fréquent. Un texte, ça peut te sortir en 5 minutes. Ça m'est arrivé à n'importe quel moment, aux toilettes, en réunion, etc. Tu as un truc qui t'arrive et puis quelquefois tu mets un an à le terminer, mais tu as au moins 10 lignes qui débarquent. Tu vois. Sur mon téléphone, j'ai toujours un petit fichier ouvert sur lequel je tape ce qui me vient. Tu vois. Puis à un moment donné, c'est prêt. Après, tu as des gens qui t'amènent la musique. Quelquefois, ils te disent, j'ai composé la musique, mais c'est sur un texte anglais. Et il faut que tu me fasses la version française du texte anglais, mais il faut que ça sonne comme le texte anglais. Ok, d'accord. Et puis, tu lui dis, et tu veux des frites avec ça? Oui, mais ça serait bien en plus si ça parlait à peu près de la même chose. D'accord, mais tu es sûr de ça? Enfin, parce que je peux partir sur autre chose, peut-être. Et après, le travail, c'est un travail de discussion aussi avec le compositeur et avec l'interprète. Parce que ce qu'il y a de bien, c'est que de temps en temps, l'interprète te dit « Ah oui, non, ça, je ne peux pas le manger, j'y arrive pas à le faire comme il faut, donc il faut le retravailler d'une autre façon. » Et puis, quelquefois, ça arrive quelquefois, il y a des changements au dernier moment en studio, et il vaut mieux pour un parolier être en studio, parce qu'à ce moment-là, tu dis « Ok, je vais m'occuper de vous faire ça, je ne vais pas vous laisser le faire tout seul. » Parce que je peux vous donner un exemple, j'ai sur un disque qui a été pourtant numéro 1 en Tunisie, il y a un gars qui chantait une chanson dans laquelle je chantais qu'on roulera comme deux frères de Nashville à la frontière avec les chœurs qui disaient droit vers le sud. Et frontière, il n'a pas réussi à le mettre. Donc il a chanté de Nashville à Vancouver et avec les chœurs qui faisaient droit vers le sud. Alors pour ceux qui connaissent, Nashville, en bas là, hein, tout à fait en bas. Vancouver, au Canada, tout à fait les hauts, avec le mec qui chante droit vers le sud quand même. Et quand ils m'ont fait écouter le CD, j'ai éclaté de rire, j'aurais dit d'accord, c'est un super gag, maintenant faites-moi écouter la bonne version. Ils m'ont regardé, ils m'ont dit mais c'est la bonne version. Et j'aurais dit mais attends, je sors l'atlas, j'ai dit t'es quand même au courant que Nashville là, Vancouver là. Et le mec me dit tu sais, si moi je le sais pas, mon public non plus. Hein. Voilà. Donc depuis, je vais en studio systématiquement quand on enregistre une de mes chansons.
Et tu as été parolier en fait avant d'être écrivain de romans et de nouvelles.
Ben, j'étais parolier et compositeur, mais mes musiques étaient merdiques. Mais j'ai eu la chance de tomber sur ce gars qui était mon prof de guitare quand j'avais 16 ans. Et on est devenus assez potes, bon, puisqu'il m'a donné quand même pas mal de cours. Et à un moment donné, il m'a fait écouter ses chansons et j'ai fait écouter les miennes. Et je lui ai dit, tu sais, je suis désolé de te le dire Norbert, mais tes textes, je les sens pas bien. Hein, vraiment, tes mélodies sont superbes, j'aime beaucoup, mais tes textes, non. Et puis il a éclaté de rire, il m'a dit tu sais, tes musiques, hein, franchement tu oublies hein. Mais tes textes on peut faire quelque chose avec. Et à partir de là, soit on se foutait sur la gueule, soit on travaillait ensemble. Bon, on a travaillé ensemble.
Et vous travaillez toujours ensemble
hein. Et 42 ans après, on travaille toujours ensemble. On a déposé, vous rendez compte, notre première chanson à la SACEM en 1977. Vous voyez que ça date pas d'hier. Et le nouvel album qu'on vient de faire, qui est le 6e album de Now, c'est uniquement des chansons qu'on a faites des années 80, qu'on avait composées dans les années 80, et on les a enregistrées en analogique pour retrouver le son de cette époque, et on a récupéré d'anciens synthés de l'époque et des instruments de l'époque, et donc on a joué sur des vrais Juno 106, sur trucs comme ça, et mixé en analogique. Et donc on a cette espèce de son un peu chaud, pas tout à fait pur, mais avec des erreurs intéressantes, je dirais.
Et vous avez un studio d'enregistrement pour faire tout ça?
Oui, on a un studio d'enregistrement, nous, déjà, pour enregistrer nos trucs. Mais tu sais, maintenant, un studio d'enregistrement, c'est basiquement un ordinateur, Cubase dessus, un clavier et une entrée MIDI, et des VLC, des pads, et des trucs comme ça, pour avoir un son de batterie, un son de piano, un son de guitare, etc. Et comme le gars avec qui je bosse, Norbert, il est multi-instrumentiste, et il joue à peu près de tout, si tu veux, il est essentiellement guitariste, mais il joue vraiment de tout, ben, on fait notre studio, et puis après, on l'amène dans un, entre guillemets, vrai studio pour faire les mixages définitifs, pour faire l'assemblage du CD, le truc. Et on vient d'y passer 3 jours. Là, j'ai pas dormi 2-3 jours de suite, quoi. C'était, mais c'est tellement génial.
Et puis son fils vous a un petit peu aidé aussi?
Sandy, non. Sandy nous file plein de matos. Mais Sandy, c'est quelqu'un. Alors d'abord, faut savoir que Sandy Willem, c'est un extraterrestre. Quand je dis c'est un extraterrestre, c'est un mec que j'ai vu avoir une idée de chanson dans la tête au moment du petit déjeuner et l'avoir terminée sur son studio avec, je sais pas, pratiquement 128 pistes ou quelquefois 200 pistes à la fin de la journée. Et pas une fois, jour après jour. Tu vois. Il avait à l'époque 7000 références à la SACEM. Bah, tu peux imaginer. C'est un mec qui a fait des chansons pour Beyoncé, qui a fait des chansons pour Katy Perry. C'est lui qui a fait, Fireworks pour Katy Perry. C'est lui qui a fait les deux albums de David Guetta, là, Sexy Beach et autres. C'est lui. Enfin, il a une ribambelle.
Rihanna aussi, il me semble.
Rihanna aussi. Enfin, bon, bref, plein de gens. Il a fait, Il a une quantité de trucs. Il est à 2 Grammy Awards. Enfin bref. Et alors évidemment, ce qu'on fait, ça lui paraît un peu amateur quelquefois. Et en plus, il a une oreille invraisemblable. Le jour où il a écouté une de nos chansons, il a dit, il y a une vibration que j'entends qui me gêne. Et on s'est aperçu qu'en fait, il entendait une clé USB qui était branchée sur l'ordinateur et qui vibrait légèrement. D'accord ? Vous le croyez, ça ? Moi, je l'entendais pas. Si tu veux. Et lui, il est... il est infernal, quoi. Bon. Plus c'est un musicien extraordinaire et c'est un remarquable bassiste. Donc, enfin, c'est un type adorable. Et c'est marrant parce que j'ai connu Norbert quand Sandy était bébé, mais vraiment bébé. La première fois que je suis allé chez lui, sa mère lui donnait à manger, si tu veux. Tu vois, c'était un bébé, il était là. Hein. Et maintenant, c'est un grand gaillard qui a pratiquement 50 berges. Et je vois Sandy, c'est la mesure du temps qu'on a passé avec son père.
Est-ce que toi, t'entends les vibrations dans les textes, justement, comme Sandy avec la musique ?
Oui. Alors, il y a des textes, je veux dire, il y a des gens qui écrivent, par exemple, tu as une écrivaine de nouvelles qui est Sylvie Lainé, tu as l'impression d'entendre Kate Bush chanter a cappella. C'est une chanson extrêmement pure, c'est monodique, tu vois, et c'est d'une pureté extraordinaire. À côté de ça, t'as des gens comme, Morgan of Glencoe, par exemple, qui elle aussi a une musique, c'est une musicienne. Dans les deux cas, Sylvie Lainé est pianiste, Morgan of Glencoe est harpiste. Dans
tous les
cas,
elle fait des concerts. Elle fait des concerts de harpe.
Et ben, dans ces cas-là, t'écoutes Morgan of Glencoe, par exemple, tu as un groupe qui joue. Et de temps en temps, t'as la basse, tu la sens qui pulse, tu sens que là, elle est sur sa pulsation, et tu l'entends dans ta musique. C'est vraiment important. Alors qu'à côté de ça, t'as des gens que tu lis, que tu visualises, mais qui ne sonnent pas. Ils sont importants pour d'autres raisons, mais ils ne sonnent pas. Et ça, moi, ça me manque un peu, quelquefois. Mais ça, on est musicien ou on l'est pas, on l'entend ou on l'entend pas. Et puis, tu sais, en tant que lecteur, tu as plein de gens qui l'entendent pas, hein.
as souvent encouragé les jeunes auteurs, et par exemple en les accompagnant sur un forum qui existe depuis très longtemps maintenant, qui s'appelle Cocyclix, mais oui. Pas que. Tu étais sans doute le premier parrain de Cocyclix, peut-être un parrain.
Non, j'en sais rien. Le problème, tu vois, avec les nouveaux auteurs, comme tu dis, c'est que ce sont les gens qui vont m'écrire les livres que je vais lire. Ils sont donc des gens extrêmement importants dans ma vie. Ils vont me fournir la nourriture dont j'ai besoin. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Et quand je tombe sur quelqu'un dont je me dis, ah oui, lui ou elle, c'est bon, tout ce que je peux dire, parce que maintenant je suis un vieil auteur blanchi sous le harnois qui même avoir gagné le prix à Yarda, alors tu imagines, je peux leur dire, ce que tu fais, c'est vachement bien. Et le simple fait de leur dire ça, il paraît que c'est important. Et c'est, moi, j'y suis pour rien de leurs textes, c'est eux qui les écrivent. Le simple fait que j'arrive avec le grand tampon, je suis un vieil auteur blanc, cisgenre, etc., machin, qui a gagné des prix, pan, approuvé, tu vois, c'est censé avoir de la valeur. Et je le fais d'autant plus volontiers que je sais que je vais les lire, ces gens, tu vois, que je vais apprécier ce qu'ils font. Et effectivement, il y a plein de gens que j'ai lus et dont je me suis dit, mais c'est bien ce que tu fais. Et je ne me le suis pas dit intérieurement, je me le suis dit et je me suis tourné vers la personne en disant, mais c'est bien ce que tu fais, putain, mais continue. Et voilà, et ça a suffi. Et ça, ça t'appelle un passeur, mais ça n'a qu'une importance très, très minime, en fait. Et il faut savoir que moi-même, quand j'ai commencé à écrire quelques toutes petites nouvelles, ma quatrième nouvelle a gagné le Grand Prix de l'Imaginaire. Elle s'appelait Les Nageurs de Sable, et c'était vraiment mon quatrième texte. Et un certain Michel Jury, ça vous dit quelque chose, Michel Jury, c'était un mec, j'en avais un mètre dans ma bibliothèque, enfin, c'était le mec qui avait écrit Le Temps Incertain. Moi, il y aurait toujours une assiette de soupe à la maison. C'était Michel Jury qui m'appelle au téléphone et qui me dit, t'as gagné le Grand Prix de l'Imaginaire. J'éclate de rire. J'ai dit, ok, t'es un copain, tu rigoles, tu m'as fait une blague. Il dit, non, c'est bien Michel Jury. Et il me dit, c'est bien ce que tu fais, il faut que tu continues. Ben, ce mec-là, il y a lui et Jean-Pierre Andrevon qui ont décidé que j'étais des écrivains. Parce qu'avant, je l'étais pas. Avant, j'étais un mec qui écrivait des textes, mais être écrivain, si tu veux, c'est quelqu'un qui te regarde et qui te dit, mais tu sais que c'est bien ce que tu fais. C'est ça qui fait de toi un écrivain. Un jour, j'ai soumis mon premier roman et il a été accepté dans une édition qui s'appelait La Découverte, qui n'a publié malheureusement que 12 bouquins. Mais attention, sur les 12 bouquins, il y avait Nos Romanciens de Gibson, il y avait je sais plus quel truc de. Enfin, ben, il y avait vraiment que des très très bons trucs. Mon bouquin devait être le 14e, ils sont arrêtés au 12e. Et Jean-Pierre Andrevon, qui était l'un des directeurs de la collection, me dit, écoute, on est désolé, ça s'arrête. Il me dit, par contre, si tu veux, est-ce que tu veux récupérer ton manuscrit? Ou même si tu veux, je vais passer au fleuve noir, je peux le ramener là-bas, ça t'évitera d'éteindre, parce que à l'époque, les manuscrits, c'était des machins papier, lourds, reliés, donc ça coûtait cher à envoyer. Et je lui ai dit, écoute, si ça te dérange pas, si c'est pas trop lourd, tu peux le faire. Il me dit, il n'y a pas de problème. Et il le dépose au fleuve noir. Le fleuve noir le prend, le publie. Dès un jour où je passe au fleuve noir, la secrétaire me dit, veux-tu récupérer ton manuscrit? Sinon, poubelle. Alors je me dis, bon oui, quand même, je vais récupérer le manuscrit, je le prends, et je le feuillette, et je tombe sur une lettre de Jean-Pierre Andrevon, qui en deux pages, fait le panégyrique de ce texte, et explique les raisons pour lesquelles il l'avait pris pour la collection, et les raisons pour lesquelles il fallait que le fleuve noir le lise. Et quand tu lis ça, c'est Jean-Pierre Andrevon, putain. Quand tu lis ça, tu te rends compte que tu es un écrivain, et que personne ne te l'avait jamais dit, tu vois. Et je revenais dans le train, je l'ai lu dans le train de retour de Paris à Toulouse. Je suis arrivé à Toulouse métamorphosé, vraiment. Et j'ai toujours dit à Jean-Pierre Andrevon, j'ai dit, où que ce soit, quoi que tu fasses, tu passes par Toulouse, ton rond de serviette est prêt. Je te nourrirai jusqu'à la fin. Parce que ce que tu m'as fait, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. C'est ça un passeur. Mais en fait, c'est juste ça, tu vois ce que je veux dire?
Alors ça me rappelle un souvenir, j'ai un petit peu parlé. Moi, je me rappelle en 2011, on avait fait un repas. Aux Utopiales, alors c'était hors des Utopiales, avec les jeunes auteurs de Cocyclix.
Oui, je me rappelle de ça. Ouais, il y avait Nadia Coste, entre autres. Il y avait Célia.
Voilà, et c'est ça. Et Célia Flo était devant toi. Et je me rappelle, elle avait dit, j'aimerais bien être un auteur. Et tu t'étais penché au-dessus de la table. J'étais derrière. Et je t'ai entendu dire, mais tu es une autrice. Et aujourd'hui, elle a publié 6 romans, dont la trilogie Porcelane. Je crois que c'est un peu la même chose en fait, c'est la même histoire, c'est une histoire de passation, et c'est une sorte de déclenchement aussi.
Quand il y a quelqu'un qui est bon, entre écrivains, on se reconnaît tous. C'est-à-dire, quelqu'un qui écrit un texte et dont on dit ça, c'est un texte d'écrivain, même si le texte est mal foutu, même si le texte comporte des trucs améliorables, etc., on dit là, il y a quelqu'un. Et à ce moment-là, on dit ok, on s'assoit et on bosse. Ça m'est arrivé une fois, je peux vous raconter l'histoire, l'anecdote. On était une convention de SF vers le milieu des années 90. Et souvent, on disait aux gens, si vous êtes des jeunes écrivains, enfin des trucs, amenez-nous 5 pages, 10 pages, qu'on puisse discuter avec vous, qu'on puisse vous lire et regarder ce qu'on fait. Et donc j'étais là, moi, dans cette convention, et il y a un type qui dit, que je ne connaissais pas, un jeune qui dit, j'ai entendu dire que vous accepteriez de lire, etc. Il avait une nouvelle de 10 pages, mettons. Et j'ai dit, mais écoute, avec plaisir, je prends sa nouvelle, donc papier, je le lis, je le réfléchis, je relis certains passages, et puis je lui dis, écoute, oui, c'est intéressant, il y a peut-être un travail au niveau de tes personnages qu'il faudrait que tu essayes d'approfondir un peu, qu'on les comprenne mieux, mais il y a quelque chose, continue, tu vois, puis je lui tends son papier. Et j'avais une copine qui était là, qui est devenue la mère de mon petit filleul, et qui me dit, écoute, Jean-Claude, c'est à mon avis de te déranger, mais moi aussi j'ai fait un texte, est-ce que tu accepterais de le lire? Je dis, oui, comme lui. Et elle me file un texte, mal foutu au possible, pour finir faire, mais une écrivaine, une vraie. Et je lui dis, toi, assieds-toi, je sors mon stylo rouge, et je commence à lui démonter sa première page, mais pratiquement à lui déchirer le truc, quoi, puis attaquer le deuxième truc, à lui déchirer le truc, puis j'étais vraiment sur le truc, et je lève la tête, je la vois, elle est en train de pleurer. Et là, je lui dis, mais ça va pas, t'as un problème, t'as le rhume des foins, elle me dit, mais lui, avant, tu lui as rien dit, et puis moi, t'es en train de complètement me démolir, qu'est-ce qui se passe, enfin, etc., etc. Et c'était tellement à l'écart de ce qui se passait que j'en suis resté interloqué. Et heureusement pour moi, à côté, il y avait une autre écrivaine qui s'appelait Wendy Petou, qui a éclaté de rire. Et alors là, la copine qui pleurait, je veux dire, il y en a un qui était comme ça et l'autre qui éclate de rire, elle s'arrête de pleurer et la copine qui éclate de rire, elle me dit, mais Anne, le gars qui était avant, elle se tourne vers moi, il valait rien. J'ai dit, il n'était pas très bon, non. Elle me dit, toi t'es bonne, donc on perd du temps avec toi, donc on te fait bosser, donc tu arrêtes de faire chier et tu bosses. Et elle a dit, c'est vrai? J'ai dit, oui, bien sûr que c'est vrai. Et elle a dit, ok, elle a séché ses larmes et elle a bossé. Et les deux textes en question, parce qu'elle en a fait lire un deuxième, ont été publiés par Doré Mieux dans les anthologies le truc du Vertige qu'il avait fait chez De Noël. Et c'est des textes qui ont vraiment été remarqués. D'accord? Tu peux faire ça. Quand t'es éditeur, ton boulot, c'est de faire ça. Mais la première chose, c'est que tu reconnais quelqu'un. Tu vois un texte, tu reconnais quelqu'un. Et les passeurs sont vachement importants. J'ai publié une première autrice dans ma collection de science-fiction chez Bragelonne, qui s'appelait Adriana Lorusso, qui est une dame qui avait 60 et quelques années à l'époque où je l'ai publiée, pour une raison très simple. À Bruxelles, il y a un libraire qui était sur la Grand Place, dans une petite rue qui donne sur la Grand Place, et qui était quelqu'un que je connais bien. Donc chaque fois que j'allais à Bruxelles, et j'y allais tous les 4 matins parce que je travaillais avec la Commission européenne, j'allais passer prendre une bière avec lui ou discuter 5 minutes, etc. Et à un moment donné, il me dit, tu sais Jean-Claude, j'ai reçu un manuscrit que je me sentirais parfaitement capable de vendre sur ma table. Ah, lui dis-je, je venais d'être directeur de collection chez Bragelonne, donc j'étais interpellé, je lui dis, elle me dit, oui, tu verras. Il me dit, tu comprends, moi en tant que libraire spécialisé de SF, tous les gens qui écrivent de la SF me font lire des choses, c'est pas toujours intéressant. Il me dit, mais elle, je me sens parfaitement capable de la vendre si elle était publiée. Ah, lui dis-je, est-ce que par hasard je pourrais jeter un coup d'œil sur son manuscrit? Il me dit, écoute, il faut que je lui pose la permission. Donc il sort son téléphone portable, il l'appelle, il dit, allô Adriana, voilà, j'ai dans mon magasin un ami que je connais qui est éditeur, qui aimerait lire ton livre. Non Adriana, il n'est pas fou, je le connais, il n'est pas fou, je te garantis, il aimerait lire ton livre. Est-ce que tu m'autorises à le lui passer? Mais non, je te garantis que c'est une personne tout à fait sérieuse. Puis il se tourne vers moi, il me dit, elle accepte. Et il me file une espèce de pavé, mais comme ça, de feuilles, en plus, simple interline, serré, enfin, pas le bon format. Et là, je me dis, c'est lourd, je repars demain soir en avion. Je sais ce que je vais faire, je vais en lire 50 pages ce soir avant de dormir. Comme ça, demain, j'aurai le temps de repasser à la librairie, de lui rendre le machin et dire, c'est pas pour moi. Sauf que j'en ai lu 300 pages. Qu'à 3h du matin, je me suis dit, t'as une réunion avec la Commission européenne à 8h30, tu vas dormir parce que tu as besoin de dormir. Donc j'ai interrompu ma lecture à regret. Je me suis réveillé le matin à 7h, je suis allé aux toilettes et le premier réflexe a été de prendre une poignée de feuilles pour continuer. Et là, je me suis dit, ok, ce bouquin, que je le veuille ou non, je vais le prendre. Je l'ai fini dans l'avion. Je l'ai relu, je me suis imposé de le poser une semaine, de le relire pour savoir, etc. Et j'ai appelé la fille en disant, je vous prends. Je vous le prends sans aucun problème, il n'y a aucune discussion. On va bosser parce qu'il y a des trucs. La fille est italienne, elle l'avait fait traduire en français par une copine. Enfin, il y avait des problèmes de traduction. Mais le bouquin était formidable. Et elle en a écrit 3 ou 4 autres dans le même univers. Et j'ai été son éditeur à chaque fois en lui disant « Mais je veux faire ça, c'était superbe. » Et bien ça, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a levé le doigt, qui est le libraire, qui m'a dit « J'ai lu un truc qui mérite d'eux. » Et moi, quand j'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui me file un manuscrit et dont je me dis mais attends, mais c'est vachement bien ce que tu fais, mon premier réflexe, c'est d'accrocher le téléphone, d'appeler les éditeurs que je connais, d'appeler La Talente, et de dire, tu sais, il y a un bouquin que tu devrais essayer de lire. Et La Talente m'a dit, d'habitude, on prend un bouquin sur tous les 2000, 3000 manuscrits. Quand tu nous en transmets un, on en a pris 3 sur 5. Donc, continue. Tu vois ce que je veux dire ? Après, il y a des trucs qu'ils ont pris en disant, qu'ils ont lu en disant c'est pas pour moi. Mais eux aussi ont le réflexe de dire c'est pas mal. Donc ils appellent machin qu'ils connaissent en disant on a un truc qui est peut-être pour toi. Tu vois, ça c'est le travail des passeurs. On se reconnaît entre nous. Et croyez-moi, un nouvel auteur, non seulement on l'accueille, mais on le mettra derrière les tables avec nous parce que c'est lui qu'on va lire. Lui ou elle. Pour le plaisir vraiment d'avoir quelqu'un qui fait partie du club. Voilà. On est des gens précieux et on est des gens rares, qu'on le veuille ou non. Donc quand on a la chance d'en repérer un, putain, mais on le soigne. Vraiment.
Les passagers de mes nuits blanches sont les acteurs de notre temps.
avec le morceau Navire Mémoire sur Radio G dans Imaginaire. On retrouvera Jean-Claude Duniac dans un mois dans cette émission pour la deuxième partie de cette rencontre. La prochaine émission, elle sera une rediffusion de l'émission spéciale que nous avions consacrée au Games Workshop à l'occasion de la sortie du livre Dice Man, un peu l'autobiographie de Ian Livingstone et Steve Jackson. Je vous souhaite un bel été et nous terminons cette émission en douceur avec le Dungeon Saint d'Elminster, le morceau The Old Spire qui était extrait d'un split album avec Lone Sentinel en 2021.
88.5 FM.